Merci. Alors, très bien. J'aimerais commencer avec cet extrait de la critique de Madame Bovary par Charles Baudelaire. L'hystérie. Pourquoi ce mystère physiologique ne ferait-il pas le fond et le tuf d'une œuvre littéraire, ce mystère que l'Académie de médecine n'a pas encore résolu et qui, s'exprimant dans les femmes par la sensation d'une boule ascendante et asphyxiante, se traduit chez les hommes nerveux par toutes les impuissances et aussi par l'aptitude à tous les excès. L'homme nerveux dont on parle ici, on le confond ici, enfin, on l'assimile à la femme hystérique. C'est un portrait du masculin qu'on retrouve vraiment de façon récurrente chez à peu près tous les auteurs qu'on a abordés aujourd'hui. On peut les nommer Rachel, Colette, Musset, Zola aussi. Bien, de façon générale, ces auteurs confortent le lecteur dans ses automatismes par l'intermédiaire de stéréotypes et d'antimènes et lui procurent un assemblage narratif en apparence cohérent. Cette représentation littéraire du jeune homme au 19e siècle fait écho à une conception de l'identité qui insiste sur le caractère ambigu de celle-ci. Chez Balzac et Maupassant, par exemple, les pronoms et les substantifs employés dans Sarrazine ou dans Rose, justement qu'on va aborder aujourd'hui, ne renvoient à aucun genre, mais simplement à un nom programmatique dont l'assonance trouble l'identité sexuelle du personnage principal. Cet ensemble produit un effet de brouillage par lequel l'écriture sépare le langage du corps, laissant un vide, un espace de liberté, qui montre, comme le souligne Barthes, que toute subversion commence par le nom propre. Donc c'est à partir de cette conception que la présente communication se propose d'étudier l'ambiguïté dans la représentation du jeune homme, dans Rose, et si on a le temps, et j'en doute, mais j'espère qu'on va avoir le temps, dans la pièce de théâtre « À la feuille de rose, maison turque ». Donc, avant d'analyser les textes, Maupassant, nous allons faire un petit retour sur la conception de l'identité sexuelle au 19e siècle. Essentiellement, c'est le cas de le dire, ce qui domine dans la conception de l'identité sexuelle, c'est les modèles essentialistes, tels qu'on les connaît, donc entièrement une femelle, entièrement un mâle, surtout dans le discours scientifique, médical, la psychiatrie et la psychanalyse, c'est ce qu'on retrouve le plus. Michel Foucault justement en parle dans son Histoire de la sexualité, où il explique que si le corps est une construction sociale et historique, c'est justement à cause de l'accumulation des discours sur la sexualité. L'étude du philosophe a pour point de départ la remise en question de ce qu'il nomme l'hypothèse répressive. Car là où les historiens ont cru voir une tentative de taire le sexe, Foucault affirme au contraire que les discours à son sujet ont foisonné. Ce recensement des manifestations du sexe par les technologies de l'aveu, les confessions, mea culpa, à la télévision, à la radio, en passant justement par la psychanalyse et les cliniques, avait pour but, sans s'y limiter, de déloger la vérité du corps. Il constate qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il se produit une sorte de politisation du corps qui atteint justement son apogée à l'âge classique. Donc, au 17e siècle, on a vu la montée d'une nouvelle classe sociale, dont on a encore abondamment parlé aujourd'hui, la bourgeoisie. Alors que jusqu'ici, l'aristocratie marquait sa distinction par l'ascendance, la bourgeoisie opère par descendance. Cette nouvelle élite va rapidement s'imposer en Europe et, dans un souci d'assurer cette descendance, développera de nouvelles techniques pour maximaliser la vie. Foucault souligne le passage d'un dispositif d'alliance, donc le système de mariage, protection des biens, à un dispositif de la sexualité, de protection du corps, intensification du corps, valorisation du corps comme objet de savoir et comme élément dans les rapports de pouvoir. Donc, selon Foucault, le 19e siècle marque le passage d'un art érotique à ce qu'il nomme une science sexuelle. La médecine et l'État de droit s'imposent comme les nouveaux souverains de l'Occident, les deux derniers siècles démontraient déjà un intérêt grandissant à l'égard des risques de la sexualité, événement coïncidant avec la disparition graduelle des monarques, il revient maintenant au judiciaire de protéger les citoyens. Cette nouvelle autorité apparaît notamment dans ce texte « Questions médico-légales de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels » publié en 1874 du docteur Ambroise Tardieu. Le médecin relate justement les circonstances du suicide en 1868 d'un jeune hermaphrodite, Herculine Barbin. Alors que ce dernier avait été reconnu à naissance comme une fille, les médecins détermineront beaucoup plus tard qu'il s'agissait d'un homme. Il s'en suivit une décision juridique qui fit officiellement de Barbin un homme. Il quitta sa maîtresse et son emploi, changea son nom pour celui d'Abel Barbin. Il s'installa à Paris où il vécut dans la pauvreté et écrivit ses mémoires. Évidemment, Abel ne s'en remettra jamais, et avant de s'enlever la vie, elle ou il laissera un texte reproduit et commenté tout d'abord par le docteur Tardieu, puis par divers auteurs tels que Neugebauer, Foucault et évidemment Judith Butler. Tardieu introduit son étude comme suit. Je me propose dans ce mémoire de réunir plusieurs faits dans lesquels les questions médico-légales d'identité les plus graves ont été soulevées par suite d'un vice de conformation des organes sexuels. L'état civil des individus faussés de leur naissance a maintenu les uns pendant de longues années dans une situation étrangère à leur sexe véritable. Jusqu'au jour où, l'erreur étant reconnue, ils ont repris les habits et le genre de vie qui leur appartenaient. Mais pour quelques autres, l'erreur a été jusqu'à un mariage contracté dans des conditions d'identité de sexe qui devaient le rendre radicalement nul. Donc, Tardieu évoque alors deux éléments très importants de la conception des genres de l'époque. L'obsession de trouver une vérité dans le corps, un véritable sexe, idée justement qu'on trouve beaucoup dans les travaux de Foucault, et le vice de conformation des organes sexuels. Pourtant, cet impératif médico-légal, renforcé justement par le Code Napoléon, n'a pas toujours eu cette force. Foucault rappelle qu'au Moyen Âge étaient appelés hermaphrodites ceux en qui se juxtaposaient, selon des proportions qui pouvaient être variables, les deux sexes. En ce cas, c'était le rôle du père ou du parrain de fixer au moment du baptême le sexe qui allait être retenu. Mais plus tard, au seuil de l'âge adulte, lorsque venait pour lui le moment de se marier, l'hermaphrodite était libre de décider lui-même s'il voulait toujours être du sexe qu'on lui avait attribué ou un autre. Par contre, il ne pouvait plus en changer après, sous peine justement d'être considéré comme un sodomite. Ce n'est que vers le 18e siècle que le mélange des sexes devint une anomalie à contrôler dans les États modernes. La peur de ce qui est caché ou de ce qui pouvait tromper l'œil apparaît sous le nom de pseudo-hermaphrodite. Pour la médecine, un sexe doit dominer, l'autre n'étant qu'un accident ou une illusion. Si dans le discours de Tardieu on perçoit si distinctement la dérivation de conformer, c'est que la médecine du 19e siècle fonde ses prémices sur la relation de la norme et du pathologique. Rapidement, je vais sauter cette partie-là, mais rappelons juste que cette conception rejoint dans le fond la psychanalyse, où on va revenir justement à cette idée de subordination de ce qui est féminin et qu'elle sera toujours transitoirement associée de manière péjorative à la passivité, enfin le féminin. Donc, on va continuer plus rapidement. En 1884, histoire que vous connaissez bien, Jean-Martin Charcot réhabilite l'hypnose pour ses travaux sur l'hystérie à la Salpêtrière. En alliant cette méthode à la photographie, le médecin croit avoir toutes les conditions pour rapporter scientifiquement ce qu'il observe. Mais c'est sans réaliser que la valeur figurative de l'hypnose organise un simulacre d'hystérie et entraîne Charcot et sa définition du syndrome vers une interprétation, comme on le dit, d'un chef d'orchestre, une création. Charcot spécule sur l'hystérie et il met en scène des corps. Donc évidemment, Freud va beaucoup s'intéresser aux travaux de Charcot. Il va l'étudier pendant un certain temps, de 85 à 86, mais ensuite, plus tard, il va se distinguer de lui, notamment parce qu'il va commencer à réaliser qu'il y a peut-être d'autres symptômes au niveau psychique qui l'intéressent davantage. Il va pouvoir développer plusieurs éléments, mais dans sa psychanalyse, comme je le disais, encore là, on considère le corps de la femme comme étant quelque chose de déformé, quelque chose d'abâtardi, quelque chose qu'on doit réparer, guérir, en fait. Donc, bien que la psychanalyse ait enthousiasmé un nombre important de chercheurs et d'artistes, le modèle qu'elle proposait n'a pas plu à tous. Avec le deuxième sexe, Beauvoir offre les prémices d'un constructivisme qui va révolutionner la question des genres. Vous connaissez essentiellement « on ne naît pas femme, on le devient », mais elle rajoute « aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. » Donc, selon Beauvoir, la femme est un produit de la civilisation. L'auteur rompt ici complètement avec la relation établie par la médecine entre le sexe biologique et construction des catégories hommes-femmes. Ce premier constat devrait à la fois servir de fondation et de critique pour la philosophe Judith Butler. Dans son essai « Gender Trouble », elle aborde la détermination de sujets de sexe, de genre et de désir. Reprenant le travail de Foucault, la théoricienne critique d'abord le présupposé répandu de l'unité et de l'universalité du féminisme contemporain. Elle en montre à la fois les apories et les incohérences sur le plan de la question de l'identité du genre et du sexe. Si sa critique de la psychanalyse est sans pitié, on pourrait lui reprocher de ne pas être capable d'en sortir pour offrir une piste de solution claire. C'est surtout pour souligner l'erreur du féminisme. Butler passe en revue le travail de plusieurs théoriciennes féministes comme Lucy Riggrey et montre que leurs analyses sont prisonnières d'une matrice conceptuelle qui repose sur le présupposé de l'hétérosexualité. Elle montre également que l'unité de genre n'est sans doute pas la position politique la plus productive pour le féminisme. Donc, à partir de ces remises en question, Butler refuse le binarisme et définit le genre comme « the cultural meaning that the sex body assumes ». Elle propose un concept de performativité qu'elle développera tout au long de ses travaux et que, dans une seconde édition de son essai, elle exprime comme étant « not a singular act, but a repetition and a ritual which achieves its effect through its naturalization in the context of a body, understood in part, as a culturally sustained temporal duration ». Cette répétition, ce caractère mimétique du genre, c'est justement ce que Butler analyse avec le travesti. Ce que le drag montre dans sa parodie, c'est la possibilité de faire échec au caractère définitif de ses identités et de le subvertir politiquement. En bref, Butler se demande quelle est la pratique subversive pouvant décentrer, déconstruire et remettre en question le genre comme pratique régulatrice de l'identité. Si déstabiliser le phallogocentrisme passe par le discours, je crois qu'il faut remonter au moment précis où le langage précède le sujet, soit le nom propre. Dans son essai « Le pouvoir des mots », traduit en français « Acceptable Speech », Butler explore le pouvoir du langage sur le corps, à partir de l'expression anglaise « to be called a name ». Butler souligne que, malgré les blessures infligées par le discours injurieux, celui-ci donne à l'individu une existence sociale. Le nom propre est donc à la fois ce qui nous donne naissance comme unité, mais aussi ce qui blesse, notamment avec le mot « injury » en anglais, qui ressemble à « injure » en français. En nous tournant ce que nous sommes vraiment par un acte de langage perlocutoire et illocutoire, soit l'effet produit sur le récepteur et sa fonction performative conventionnelle. Le nom est à la fois une prescription et une étiquette. Austin, justement, soulignera que « we must always remember the distinction between producing effects or consequences », car l'acte en lui-même ne garantit pas son efficacité, un résultat clair ou celui escompté par une lecture au premier degré. L'acte de langage ne peut donc volontairement brouillé pour se détourner de son sens littéral. Un exemple connu dans l'histoire américaine et anglaise est la réappropriation des mots « gay » et « queer » qui étaient auparavant des insultes, qui sont dorénavant des symboles de fierté, d'individualité et d'affirmation de soi. Donc, le nom propre et l'identité sont dans un rapport complexe traversé par le pouvoir. Cette dynamique dans une matrice hétérosexuelle asservit le sujet au langage. Mais que se passe-t-il quand le nom ne réfère à rien de réel? Que devient le rapport de force du nom? Cette instabilité de pouvoir n'en devient-elle pas aussi une de l'identité? À ce sujet, Foucault conclut le premier volume d'Histoire de la sexualité en revenant sur la notion de résistance, soit notre capacité à résister et à engager notre liberté pour influencer et diriger la conduite des autres. Selon lui, cette notion serait à la base même du pouvoir, voire nécessaire au maintien de celui-ci. La résistance est comme un socle changeant, sans cesse les rapports de force. Les rapports de pouvoir n'existent que s'ils offrent des points de résistance, des lieux de rencontre, d'essayer pour une prise, des possibilités de renversement, car pour se maintenir, le pouvoir doit accorder une certaine liberté au corps, lieu où l'écriture rend la subversion possible. Donc, la relation entre le nom et l'identité sexuelle, comme je l'ai expliqué, il y en a une de pouvoir. Il s'agit maintenant d'observer l'influence de cette dynamique sur la construction des récits par une analyse tout d'abord de Rose de Maupassant qui a été publiée pour la première fois dans le Gil Blas en 1884. Alors, dans ce texte, l'intrigue tourne autour de Madame Margot, une riche bourgeoise qui, lors d'une promenade en landau, raconte à une amie l'étrange aventure qui lui est arrivée au sujet de son ancienne domestique Rose. Donc, dans ce deuxième récit, elle explique donc en détail comment à peu près cette bourgeoise s'amourage de Rose jusqu'au jour où la police débarque dans ses appartements pour révéler que Rose est un bagnard en fuite. Nous pouvons déjà séparer Rose en trois parties, à savoir le carnaval de Nice, où il y a cette promenade confidence en landau, et l'histoire de Rose. Le récit débute sur une narration simultanée et transparente, c'est-à-dire minimale. La narration s'efface et les faits semblent se raconter d'eux-mêmes. Les deux femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense landau, chargées de bouquets, dans une corbeille géante. Sur la banquette du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosa, de giroflées, de marguerites, de tubercules et de fleurs d'oranger. Donc, on voit beaucoup l'importance qu'il y a pour les fleurs. C'est un aspect qui revient souvent dans l'œuvre de Maupassant, notamment qui aussi un clin d'œil plus tard que Virginia Woolf fera dans Orlando en introduisant son texte avec un chant de fleurs hermaphrodites. Donc, le récit premier débute par Il y aura 4 ans, à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. Nous passons donc ici à un narrateur autodiégétique qui sera limité par ses perceptions. En effet, ce changement est important dans l'intrigue de la nouvelle puisque ce passage à une focalisation interne permet de rendre vraisemblable le fait que Mme Margot ne se soit jamais rendue compte que, dans le fond, la domestique qu'elle venait d'embaucher était un homme. La question se pose, hein, comment on peut prendre un forçat qui a passé plusieurs années au bagne pour une jeune fille? Donc, comme j'ai dit, il faut souligner la façon dont Maupassant se distancie de la seconde narration que qu'il laissait à Madame Margot, une femme qui pour ses serviteurs, ses serviteurs pour elle sont des pièces remplaçables et échangeables, qu'on les met à la porte un jour sous le premier prétexte venu, qu'elle dira. Donc pourtant, mais dès le début, le narrateur premier fournit un indice. Puisque tout est enseveli sous une couche de fleurs, ou ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu de corsage où ses landeaux sont pleins de femmes disparues sous un flot de violettes, tout est caché, tout est dissimulé. Donc dans ce jeu-là, tout cela conditionne le lecteur et le fait mieux apprécier le déguisement sous lequel Rose est cachée. Cette question du narrateur, encore là, j'insiste, est vraiment importante car bien qu'à une première lecture on puisse passer par-dessus, il est évident que le narrateur de Rose connaît le véritable sexe de son personnage et, dans le fond, de son destin. Une pression qu'on accepte implicitement de la part de celui qui compte, étant donné que le report du dénouement fait partie des artifices d'une fiction. Cette manipulation révèle aussi de la passivité du lecteur, aspect sur lequel je reviendrai plus tard. Dans Rose, on constate un renversement à la fin, où le masque de Rose tombe pour relever le capet, qui est le vrai nom, dans le fond, de Rose. Car ce qui était flou et timide devient enfin un être nommé avec un nom de famille et un réel passé. Ne faudrait-il pas y voir non plus la dissimulation du propre désir de Margot, élevé au rang d'ami de condition inférieure? Ne devait-il pas être reconnu par sa maîtresse, à moins qu'elle ne veuille pas voir l'homme derrière Rose? Pourquoi? Est-ce pour garder son emprise sur lui, ou est-ce tout simplement qu'elle a été séduite par cette androgynité? Donc, l'analyse de Rose permet de souligner les contradictions du doxite, donc les stéréotypes, hystérisation du corps féminin, stabilité de l'identité sexuelle, hétérosexisme, patriarcat, convention sociale, asymétrie dans les relations entre les hommes et les femmes. Par rapport à celle de la critique, ce qui, dans le fond, ce qui trouble l'horizon d'attente, il y a d'une part ce que reconduit Rose, qui était meilleure que les plus grands modistes, ou qui savait même faire des robes, le déjà-là, et d'autres par l'ambiguïté de l'humiliation profonde que vit Mme Margot. Là où la convention, le nom propre, Rose, et le stéréotype féminin, Mme Dubarry et l'art de faire des robes, nous rassurent sur l'identité des protagonistes, ces mêmes aspects nous leurrent triplement, à la fois sur ce nom qui se révèle ne pas correspondre au sexe en question, sur ces clichés bancals, les modistes, n'étant pas du tout un emploi de femme, en fait, à l'époque, et surtout sur les personnages dont on ne mettait pas en doute l'identité. Donc, il faut encore se demander comment on lit et comprend un texte à partir des théories de préfiguration. Bertrand Gervais explore la construction de l'image mentale d'un personnage. Il explique que le corps de personnage est le fruit non seulement d'indications du texte, mais aussi la somme de nos interprétants, de nos connaissances encyclopédiques et lexicales et de notre expérience personnelle. En fait, Gervais met en évidence dans le travail de l'esprit la lecture soit l'art de combler les blancs. Dans Rose, la figure rhétorique par excellence pour maintenir la cohérence du récit est l'antimène, soit un syllogisme fondé sur le probable ou la doxa. Si le rapport oxymorique de ces récits est souvent souligné, c'est qu'on insiste sur la prémisse entendue et sa conclusion. Rose est timide, toujours rougissante, et tout ce que ses anciens employeurs ont pu lui reprocher, c'était un peu de coquetterie française. Drôle d'expression. Toutes les femmes sont timides, Rose est timide, donc elle est une femme. Et si la domestique habillait sa maîtresse avec une légèreté de main étonnante, c'est qu'elle est délicate. Toutes les femmes sont délicates, Rose est une femme. Cela fait partie de ce qu'on nomme au sein de la rhétorique l'invention des et les lieux. Donc, rapidement, je vais passer directement à la feuille de Rose, Maison Turque, cette pièce de théâtre qui, de la période de Maupassant, n'a connu que 2 représentations, qui étaient des représentations privées c'était en 1875 et en 1877. Donc, cette pièce se déroule dans une maison close transformée en harem turc, où le maître des lieux et ses filles de joie tenteront de duper un couple de bourgeois rouennais. Cette farce enchaîne les scènes de sexe en groupe, impliquant plus de 17 personnages féminins et masculins, en plus de multiplier les mixtions en public et les blagues grivoises. Si justement, comme on a pu un peu le noter, la plupart des textes de Maupassant montraient une société secrètement dominée par la sexualité, comme dans La Petite Roque, ou encore Les Femmes, comme dans Bellamy, à la Feuille de Rose confirme la connaissance de l'écrivain d'un monde bien particulier. Dès le titre, on remarque l'hommage à Flaubert, un clin d'œil à la maison de la Turque dans L'éducation sentimentale. Ensuite, on note la reprise de Rose, ce mot qui est quand même assez particulier, non pas ici comme le pseudonyme de Le Capet, mais plutôt comme, et je vais citer ici, le manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation sur qu'est-ce qu'est la feuille de rose. On dira ceci. Ne faites pas de feuille de rose à vos domestiques. C'est un service que vous pouvez leur demander, mais qu'il est plus convenable de ne pas leur rendre. On dira aussi, ne faites pas honte à une jeune fille qui vient d'exécuter sur votre trou de cul ses plus savantes feuilles de rose. Elle l'a fait certainement dans une bonne intention. Donc, évidemment, la feuille de rose ici comme étant acte sexuel oral de quelqu'un qui lèche l'anus de son partenaire est le titre de cette pièce. Ici, on notera que celui qui performe cette feuille est en position d'infériorité. De plus, le caractère actif et masculin de ce geste est un peu contrastant avec toute la délicatesse de ce que c'est une rose, en fait. Donc, pour insister là-dessus, George Sivol, dans son essai « Horny Dudes », il rappelle que tout l'univers, toute la pièce est jouée par... tous les acteurs sont masculins. Alors, que ce soit pour les personnages féminins ou masculins, ce sont des hommes qui jouent ça, au point tel qu'ils utilisaient des poches de tabac pour pouvoir faire le buste des prostituées dans le harem. Là-dessus, John Rivière a parlé souvent abondamment de surféminité. Ici, peut-être qu'on pourrait aussi parler de surmasculinité, notamment avec Maupassant, qui insistait beaucoup sur sa moustache dans plusieurs de ses textes, mais ici, de pouvoir garder des acteurs masculins absolument pour jouer ces femmes-là, était un contraste intéressant. Rapidement, sur l'onomastique des personnages, pourrait déjà en révéler beaucoup sur la plupart, sur le thème plus large de la sexualité. Le maître des lieux, Miché, qui veut dire proxénète, le garçon en tout fer, crête de coq, évidemment, ça renvoie à l'ITS ici. Le couple de bourgeois qui se nomme Beauflanquet, donc c'est un argot encore normand ici pour désigner quelqu'un de bien foutu, tous les deux venant justement de Conville, bon, une expression qu'on ne commentera pas. Donc il faut aussi rappeler d'ailleurs que Maupassant incarne lui-même le personnage central de la pièce, Raphaël, une prostituée bisexuelle. Ce nom n'est sans doute pas un hasard, Maupassant d'ailleurs le souligne dans sa nouvelle La Maison Tellier. Raphaël incarne le rôle indispensable de la juive. Remarque qui peut-être renvoie à un juif plus connu qu'on a associé à tort peut-être à une prostituée repentante, Marie-Madeleine. Par contre, ici, généralement, comme on peut le lire dans Luc, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle au royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc cet extrait, généralement, pour la plupart des exégètes, est assimilé à l'hystérie. Donc ici, l'usage du prénom Raphaël serait d'autant plus superficiel étant la version féminisée de Raphaël, qui en hébreu signifie « Dieu qui a guéri » ou « Dieu guéri ». Donc ce goût pour le renversement trouve d'ailleurs écho dans les correspondances de Gisèle d'Estoc, publiées sous le titre « Cahier d'amour », où on découvre qu'il était commun pour l'un et l'autre de se travestir lors de leurs ébats amoureux.
Il vous reste une minute.
Alors... On va juste terminer avec ça. Donc, à la feuille de rose, il y a un important désir de choquer, de troubler, de ce qui montre une grande connaissance de la construction de l'identité masculine du 19e siècle, se faisant dépendre de la femme et de sa sexualité. Si Maupassant brouille la référentialité, c'est que le discours qu'il prend n'est pas seulement le reflet de la société française du 19e siècle ou sa contextualisation, mais avant tout le produit d'un processus créateur réaliste. Effectivement, selon l'écrivain, justement dans sa préface de Pierre et Jean, rappelle que rendre vrai consiste à donner l'illusion complète du vrai. C'est dans cette mystification du complet qu'apparaissent les brèches de la réalité configurée par l'écrivain selon sa position. Cette brèche, cet espace de liberté, dont l'écriture rend déjà compte des idéologies comme les tissus d'aporie, ce paradoxe, au sens terme du grec, en est un d'ambiguïté et il sera à la base du modèle à la fois théorique et esthétique qu'on nomme aujourd'hui postmodernité.